Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Pour l'équipe des Échos, comme pour vous, le mois d'août, ce sont les vacances. Vous ne nous en voudrez donc pas de modifier en cette occasion notre présentation habituelle et de vous emmener flâner dans ce haut lieu du tourisme international qui s'appelle la Tour Eiffel.
Pour clore les séries d'été de la Story, on fait un crochet par la Tour Eiffel, le monument parisien par excellence. Elle est un écosystème à elle toute seule, une apporteuse d'affaires pour tout un tas d'activités et de commerces. De la télé aux mariés, on va en faire le tour, ensemble, tout au long de la semaine. Mais d'abord, on va s'intéresser aux clés de son succès. Je suis Michel Varnet, bienvenue dans La Story, le podcast d'actualité des Échos, en version été.
Vous avez des visiteurs de toutes les nationalités.
Ah, de toutes les nationalités. De toutes les nationalités.
Vous pouvez nous présenter Paris en Yougoslave ?
Je t'avoue que c'est l'élite, hein ? Arc de Triomphe, Molim. Notre-Dame, Sacré-Cœur, tout ça, Nîmes-Venim, Waco, quelque très bien.
Elle a 130 ans cette année et brille d'une santé éclatante. Surtout quand ses 20 000 ampoules la font scintiller à la nuit tombée. La Tour Eiffel est le monument payant le plus visité au monde. 3500 visiteurs par heure en moyenne empruntent ses ascenseurs. C'est un symbole globalisé de romantisme, d'élégance. On la connaît jusqu'aux confins du monde et on rêve de convoler à ses pieds. Un succès fou.
Ce succès, il a été initialement très très fort. Il a connu des hauts et des bas.
Bertrand Lemoine est historien de l'architecture. Il a publié La Tour de Monsieur Eiffel aux éditions Découvertes de Gallimard.
Initialement, la tour, quand elle a été inaugurée en 1889 à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, elle a eu 2 millions de visiteurs pendant cette année-là. En 1900, l'exposition universelle suivante, elle n'a plus eu que 1 million de visiteurs, alors que l'exposition elle-même a connu 30 millions de visiteurs. Et dans les années 20-30, il y a eu un petit creux de désaffection. Il y avait peut-être la tour était rentrée déjà dans le paysage, on s'y était habitué. Elle avait moins cet effet de nouveauté qu'elle a eu pendant l'exposition universelle. Mais après, sa croissance a augmenté, et a augmenté d'ailleurs à mesure que le tourisme, tout simplement, augmentait à Paris. Paris est aujourd'hui la première destination touristique au monde. Et la tour fait partie, bien sûr, de l'attractivité de Paris.
Une ligne harmonieuse, une hauteur vertigineuse. Elle est l'œuvre d'un génie de la construction métallique. L'État français veut marquer le centenaire de la Révolution française pour l'exposition universelle de 1889. Il veut la tour la plus haute du monde, 300 mètres. Gustave Eiffel réussit à imposer son projet au concours de 1886 face à des concurrents de pierre, de briques ou de bois. Apparemment, on a échappé au pire. Et la tour de Gustave Eiffel, pour le meilleur, va dépasser son rôle.
La tour, c'était le clou, en quelque sorte, de l'exposition universelle de 1889. Elle se dressait à l'entrée de l'exposition, près de la Seine. Elle servait de porte d'entrée, d'ailleurs, puisqu'on passait sous l'arche de la tour pour rentrer dans l'expo qui était installée sur tout le Champ de Mars. Le Champ de Mars était beaucoup plus large à l'époque. On n'a pas construit les bords encore à l'époque, puisqu'on les a construits en 1910 seulement. Et donc la tour était à la fois la tour la plus haute du monde, bien plus haute que les cathédrales, que les pyramides d'Égypte, que l'obélisque de Washington, pratiquement le double. Et en soi, c'était une attraction. C'était une attraction pas seulement à regarder, à voir, mais on pouvait y monter. Parce qu'il y avait des ascenseurs, c'était nouveau. On n'a jamais fait d'ascenseur aussi, d'ailleurs. C'était un exploit technique. Et on pouvait monter jusqu'à 300 mètres, ce qui est déjà en soi aussi quelque chose d'un peu enivrant. C'est presque une expérience de grimper sur un monument aussi haut et en plein air, dehors en quelque sorte, même si on allait en ascenseur du deuxième au troisième étage. Et à pied éventuellement jusqu'au deuxième, ou en ascenseur. Et du haut de la tour, on pouvait découvrir le panorama de Paris.
Vous voyez dans le fond, là-bas, on voit très très bien, là. Hein, là c'est un joli monument, là. Hein, vous voyez, hein, c'est bien, hein. Ici, en bas, on ne voit rien du tout. Hein.
Paris en 1889, c'était une ville qui avait subi des transformations considérables sous le Second Empire, sous Haussmann, qui s'était rénovée. C'était une ville très, très horizontale, très blanche, façade en calcaire, les toits gris, donc un pays, la Seine au milieu, ces grands monuments qu'on voit très bien de la Tour Eiffel. Et donc ça donnait aussi un sentiment d'appropriation au fond de Paris. On pouvait voir tout Paris, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant, sauf quelques privilégiés qui avaient la chance de monter en ballon, par exemple, et avoir des vues à vol d'oiseau, comme on disait à l'époque. Donc pour les 2 millions de visiteurs qui sont venus, ça a été sans doute une expérience à la fois de découvrir ce monument complètement inédit et de découvrir aussi Paris sous un angle tout à fait nouveau. Et en ce sens, la Tour Eiffel a été vraiment un facteur d'attractivité très fort de l'exposition universelle. Le ballon, donc la montgolfière, datait déjà de la fin du XVIIIe siècle. Il y avait des ballons, y compris des ballons captifs pendant le siège de Paris en 1870. On avait même pris des photos. Donc on avait déjà des vues à vol d'oiseau, des vues aériennes de Paris. Mais jamais tout un chacun n'avait pu faire l'expérience justement de cette découverte d'un panorama formidable. On voit quasiment à 40 km par beau temps autour de Paris. On découvrait une ville en pleine transformation.
Paris va bientôt changer de siècle et la Tour Eiffel va ouvrir une nouvelle ère. Gustave Eiffel y croit dur comme fer. À tel point qu'il finance en majeure partie le devis initial de 6,5 millions de francs de l'époque. Une fortune, mais le succès de la billetterie va lui donner raison.
Je ne sais plus le prix exact du billet, mais c'était, oui, relativement cher. D'ailleurs, les 2 millions de visiteurs ont permis d'amortir la tour pendant la durée même de l'expo. N'oublions pas que la tour a été financée aux trois quarts par Eiffel lui-même, avec des prêts qu'il avait souscrits auprès de trois banques, qu'il a pu rembourser par avance, avec certes une subvention pour accompagner la construction de la tour, une subvention qui couvrait à peu près le quart de la dépense, parce que la tour était destinée à figurer la porte d'entrée de l'exposition, précisément, elle faisait partie de l'expo. Mais l'essentiel, les risques, y compris les risques techniques et financiers, ont été pris par Eiffel. Et cette opération a été, dès le départ, très rentable, en quelque sorte, puisque sa tour a été amortie. Les emprunts qu'il avait contractés ont pu être remboursés très, très rapidement dès la première année d'exploitation.
On se presse à travers ces poutrelles d'acier, et ça fait 130 ans que ça dure. Depuis 1889, la Tour Eiffel a vu 306 millions de visiteurs. Mais on se demande si à l'origine, elle a bien été prévue pour ça.
Pas vraiment, non. À l'origine, elle devait accueillir à peu près 500 000 personnes par an. En réalité, ces dernières années, elle en a accueilli plutôt de 6 à 7 millions chaque année.
Elsa Dichary est journaliste aux Échos.
Dernièrement, avec les attentats à Paris en 2015 et ensuite la campagne de travaux qui a eu lieu en 2017-2018 sur place, la fréquentation a un peu baissé. Mais enfin, ça reste quand même le monument payant le plus visité au monde. Et outre les 6 à 7 millions de personnes qui montent à la Tour Eiffel chaque année, on estime à peu près à 20 millions le nombre de personnes qui viennent l'admirer d'en bas. Donc la Tour Eiffel, c'est un des 5 sites les plus visités à Paris, avec les Champs-Élysées, Montmartre, le musée du Louvre et Notre-Dame.
Elsa, ce n'est pas compliqué à gérer une telle affluence ?
Effectivement, ça veut dire qu'il faut gérer les flux de touristes qui arrivent sur place et c'est compliqué. On a vu souvent des très longues files d'attente à la Tour Eiffel. Ces dernières années, il y a eu un effort de fait, notamment sur la vente sur Internet. La Tour Eiffel était très en retard là-dessus. En 2017, il y avait à peu près 20% des billets qui étaient vendus sur Internet. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 50% et l'objectif est de passer à 80% en 2021. Et l'intérêt de la vente sur Internet, c'est que les billets sont nominatifs, horodatés, et ça veut dire que les visiteurs peuvent s'étaler plus facilement tout au long de la journée.
Et autour, ça se passe comment ?
Alors déjà, au moment de la construction du mur pare-balles, qui était donc un mur de protection qui a été édifié en 2017-2018 pour des questions de sécurité à la Tour Eiffel, il y a eu une réflexion sur l'accueil des touristes. Et donc l'accueil ne se fait plus du côté rue, mais du côté jardin. Ce qui est aussi plus agréable pour l'attente des touristes.
Leïla Marchand est journaliste aux Échos. Elle est allée tendre son micro aux visiteurs de la Tour Eiffel.
C'est votre première fois pour la Tour Eiffel ?
Non, on y est monté il y a 10 ans peut-être.
Et comment c'était à l'époque ?
Pas aussi sécurisé. C'est un peu flippant en fait de voir tout ça autour. Mais bon, c'est normal que ce soit protégé. Mais ça retire un peu du cachet. C'est sécurisant et à la fois un peu stressant. Mais bon, on est là pour 4 jours sur Paris et on a trouvé dommage de ne pas monter à la Tour Eiffel.
Oui. À partir de 2021, il va y avoir un nouveau plan d'aménagement qui va être réalisé, qui consiste à créer une coulée verte depuis le palais de Chaillot jusqu'en bas du Champ de Mars. Et à cette occasion, le parvis de la Tour Eiffel va également être réaménagé. Et l'accueil des touristes va être encore amélioré. Il y aura aussi des nouveaux services, de la bagagerie, des sanitaires, et un effort sera fait également sur la signalisation. Et par ailleurs, pour que les touristes puissent admirer beaucoup plus agréablement la tour depuis les jardins, des gradins de 12 000 places vont être installés donc dans le parc en face du parvis. Tous ces travaux doivent être terminés en 2023, donc à temps pour 2024, quand Paris accueillera les JO, et une année où risque évidemment d'y avoir un nouvel afflux de visiteurs, notamment à la Tour Eiffel.
Est-ce qu'on peut dire que la Tour Eiffel est victime de son succès ?
Ben, d'une certaine façon, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde et qu'il faut, il faut accueillir tous ces touristes. Mais avec tous les aménagements qui vont être faits, la tour pourrait finalement accueillir encore plus de monde. Et en tout cas, les travaux seront terminés en 2023, avant les Jeux Olympiques de 2024, qui devraient encore attirer beaucoup de touristes dans la capitale.
Coût de l'opération, 80 millions d'euros déboursés par la mairie de Paris. La société d'exploitation de la Tour Eiffel, la SET, qui gère l'édifice, procède, elle, à un toilettage de luxe pour un budget de 300 millions à horizon 2030. Mais il faudra bien l'amortir, et la tour a ses limites. Sa jauge maximum est de 7,4 millions de visiteurs par an. Reste le levier du prix du billet, qui est déjà passé de 17 à 25 euros il y a 2 ans. On écoute un reportage de France 3 réalisé au pied de la tour en 2017.
Nous sommes 4, ça ferait 100 euros. Et c'est cher.
Je viens de Norvège. Je suis habituée au prix élevé. La tour Eiffel, ce n'est qu'une fois dans sa vie. Donc, ça va.
Si encore c'était en haute saison, ça irait. Mais en basse saison, 17 euros, ça suffit.
Plus cher que le Colisée à Rome ou le Parthénon à Athènes, le sommet de la Tour Eiffel restera plus accessible que celui de la Sagrada Familia à Barcelone, la Tour de Londres ou l'Empire State Building à New York.
La Dame de Fer, c'est au total un chiffre d'affaires attendu à 100 millions d'euros cette année. Et à horizon 2030, c'est 140 millions que vise la SET. Avec une tour repeinte, des restaurants et des boutiques haut de gamme et rénovée, une bonne dose de verdure, le succès commercial du site devrait se perpétuer. Merci Bertrand Lemoine, Leïla Marchand et Elsa Dichary. La story d'été par les Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on part à l'ascension de la Tour Eiffel, direction les antennes. L'émission a été réalisée par Adèle Hittel. Vous pouvez profiter des vacances pour retrouver les précédents épisodes de la story. Et pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Mesdames, messieurs, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il vous plaît.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.